Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Voici une histoire d'amitié qui peut choquer. L'histoire nouée pendant 25 ans entre Martine Weiss, une visiteuse de prison, et le célèbre Patrick Henry, l'homme le plus détesté de France, assassin du petit Philippe Bertrand en 1977. On ne raconte jamais la vie d'un condamné à perpète après son procès. Et là, vous allez apprendre plein de choses. J'ai tiré cette histoire du livre de la journaliste Plana Radenovic, Martine Weiss et Patrick Henry, L'amitié malgré tout, chez Michalon. Réalisation signée Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Pourquoi devient-on un jour visiteur de prison? Pourquoi décide-t-on de se mettre en marge de l'opinion? Parce que la plupart des gens ne comprennent pas. Aller voir des gens en prison, des gens qui ont tué, qui ont violé, qui ont torturé, des voleurs, des bandits, des gangsters. Pourquoi faire? Zonk a crevé. Zonk fait des bêtises, zonk a crevé. T'as du temps libre. Occupe-toi des enfants malades, des vieillards abandonnés, des sans logis, des sans famille, de ceux qui n'ont rien fait pour mériter ça. Et toi Martine, tu as un mari, vous vous aimez, tu as des enfants, bientôt des petits-enfants. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Devenir l'ami de Patrick Henry, un tueur d'enfants? Un type qui a étranglé un enfant de 7 ans? T'y penses au petit Philippe Bertrand? Il aurait pu le libérer quand il a vu qu'il ne toucherait jamais la rançon qu'il réclamait. Eh ben non, il l'a pas libéré avec ses mains, Martine. Avec ses mains, il lui a serré le cou. 7 ans. Et toi, pendant 25 ans, tu as été sa visiteuse, son amie. Tu as été l'ami d'un étrangleur d'enfants. Faut m'expliquer, Martine. Faut m'expliquer. Martine Weiss a 42 ans quand elle devient visiteuse de prison. Qu'est-ce que je peux vous dire sur son enfance qui peut expliquer, puisqu'il est question d'expliquer? Martine a été abandonnée par sa mère à la naissance. Récupérée d'abord par sa grand-mère, jusqu'à l'âge de 3 ans, puis finalement par son père. À 11 ans, on la place dans un internat à Lambersart, dans la banlieue bourgeoise de Lille. Elle n'a qu'une chose à dire sur cette époque. « Oh, c'est drôle. Quand je parle de la pension, je fais toujours le lapsus. Je dis prison. C'est amusant, non ?» Martine a été mariée 2 fois, et la deuxième a été la bonne. Il s'appelle Jean. En vérité, au début, c'est son patron. Il est directeur commercial dans l'entreprise où elle est elle-même commerciale. Ils partent en tournée une semaine et c'est le coup de foudre. En rentrant, ils annoncent à leurs conjoints respectifs qu'ils divorcent. Le coup de foudre, je vous dis. C'est important de vous parler de Jean dès le début, parce que cette histoire, c'est aussi une histoire de couple. Cette envie d'entrer en prison, de visiter des prisonniers, ça la travaille depuis un bon bout de temps. Mais bon, les enfants, le boulot, le déclic arrive quand elle a 42 ans. Les enfants maintenant sont grands, elle ne travaille pas le lundi. À cette époque, elle habite à Caen, en Normandie. Le plus naturellement du monde, elle appelle la prison de Caen.
Centre pénitentiaire de Caen, bonjour.
Oui. Bonjour. Voilà, je vous appelle, je souhaiterais devenir visiteuse de prison. Comment dois-je faire?
Ah, ça ne passe pas par nous, madame. Il faut vous adresser à l'antenne locale de l'Association des visiteurs de prison.
Ok. Elle leur écrit. Et elle se lance dans un parcours du combattant, parce qu'on ne devient pas visiteur de prison comme ça. Enquête des renseignements généraux, entretien avec 2 policiers au commissariat de Caen, entretien avec un juge d'application des peines, entretien avec la directrice des services sociaux de la prison, tout ça dure une année. Et à la fin, elle signe une charte longue comme un jour sans pain, dans laquelle elle s'engage à ne rien faire rentrer, à ne rien faire sortir et à ne faire aucun prosélytisme religieux. Et en septembre 1992, Martine franchit pour la première fois la porte du centre de détention de Caen. Vous êtes déjà rentré dans une prison ? La première fois, c'est un choc. Le bruit, l'odeur, les détecteurs de métaux qui ne doivent jamais sonner, les portes qui s'ouvrent les unes après les autres. Une spip est venue l'attendre, une conseillère d'insertion.
Bonjour, suivez-moi.
Elle passe par le chemin de ronde, entre les deux murs d'enceinte. Le bâtiment est magnifique, mais il suinte l'humidité. Et derrière une porte, Martine entre au cœur du bâtiment A, au milieu des détenus. En l'occurrence à Caen, 80% de délinquants sexuels. Elle sent un léger vertige. Sur un bout de papier dans sa main est écrit le nom du détenu avec lequel elle a rendez-vous. Pierre. Elle ne sait rien sur lui. Rien. Juste son nom. On l'installe dans une cellule, deux chaises face à face, une table au milieu et une sonnette au pied à actionner en cas d'urgence. Aucun surveillant ne sera là, ils seront tout seuls. Et le voilà qui entre, Pierre, 39 ans, un ancien cuistot tout en rondeur. Ouf, il a l'air sympa. Et la conversation démarre toute seule. Et il dit d'entrer, pourquoi il est là ? Elle ne lui aurait jamais demandé, elle n'en a pas le droit. Mais lui, il y va tout droit.
Oh, moi c'est simple, hein. Je suis un braqueur. Je me suis fait une banque. Je me suis fait pincer. Je suis là, quoi.
Il raconte tout. Il s'est fait arrêter par des paysans dans un champ.
Oh, vous n'allez pas le croire. Vous savez ce qu'ils m'ont fait, les pécores ? Ils m'ont forcé à me déshabiller en attendant les gendarmes.
Un tchatcheur. Et pourtant...
Je n'ai aucune visite. Non. De personne. Si. J'ai mon oncle qui vient une fois par an, au moment de Noël. Il me porte mon colis, quoi. Mais c'est tout.
Martine est soulagée. Ça se passe bien. Elle va mettre un peu de temps à réaliser qu'il l'embrouille un peu. Le gentil Pierre, figurez-vous, a monté depuis sa cellule un réseau de proxénétisme. N'empêche que 2 ans plus tard, Pierre obtient une permission de sortie pour se marier. Et qui sont ses témoins ? Martine et Jean, son mari. Assez vite, l'administration pénitentiaire lui propose un deuxième détenu, Abderrahmane, qui ne sait ni lire ni écrire. Il a violé sa fille de ses 8 ans à ses 13 ans. Et lui aussi... Elle s'attache à lui. Un pédophile pourtant. Elle le trouve touchant. Et quand il a fini sa peine, comme il est algérien, il est expulsé. Et c'est Martine et Jean qui vont récupérer chez l'un de ses amis 2 petits cartons qui contiennent toute sa vie en France. Ensuite, il y a Joël, un alcoolique qui a violé sa fille, lui aussi. Joël qui se fait maltraiter par les autres en prison. Un jour, il lui montre les marques qu'il a au cou. On a voulu l'étrangler. Pour son anniversaire, elle lui achète un jogging bleu et un jean et un pull. Lui qui n'a que des pantalons troués. Et quand il sort, lui aussi, avec Jean, il s'occupe de tout. Il lui achète une gazinière, un réfrigérateur, tout ce qu'il faut. Et puis il y a Thierry, 33 ans. Un soulard tombé dans une tournante. Et Jean-Emmanuel, un réunionnais, qui, à l'inverse des autres, ne lui dira jamais pourquoi il est là. Jean-Emmanuel refuse de voir ses enfants. Il a trop honte.
Trop honte, Jean-Emmanuel ? Mais enfin, vos enfants veulent vous voir. Vous avez le culot de refuser ? Alors que d'autres détenus sont abandonnés par leur famille ? Mais ça va pas ?
Et la semaine suivante, Vous allez être fier de moi, Martine. Ouais. J'ai écrit à ma fille pour qu'elle demande une autorisation pour des parloirs en famille.
Et Jean-Emmanuel va revoir et ses enfants et sa mère.
Et puis, un jour, il y a Patrick Henry. Lui, au début, Martine n'est pas sa visiteuse. Elle le rencontre à l'atelier d'imprimerie géré par une association. On vient de la nommer administratrice de l'atelier. C'est la patronne, à la tête de 6 détenus imprimeurs. Poigne de fer. Je suppose que vous êtes tous ici des fumeurs de joint, hein? Alors je vous le dis, si vous détournez le règlement, je vous vire dans les 3 minutes. C'est compris?
Et donc, parmi les détenus imprimeurs, il y a Patrick Henry. Depuis le premier jour qu'elle est entrée dans cette prison, elle sait qu'il est là, bien sûr. On lui en a parlé plusieurs fois, mais Martine, les faits divers, les crimes, ça ne l'a jamais intéressé. En revanche, la première fois qu'ils se parlent tous les deux à l'atelier, ça, elle n'est pas prête de l'oublier.
Je suis passionné par Mein Kampf.
Ah bon? Et ça t'apporte quoi?
Tout n'est pas négatif, hein, dans ce qu'Hitler projetait de faire.
Martine a du sang juif. Elle est prête à exploser. Et d'ailleurs, le soir, elle appelle le président de l'association qui gère l'atelier.
Je vais arrêter, André. Je vais arrêter. C'est à cause de Patrick Henry.
Écoute, Martine, ça colle pas. Ça colle pas avec le bonhomme que je connais, je te jure. Apprends à le connaître. Cette histoire ne correspond à rien de ce qu'il est profondément.
Et elle accepte, sans savoir qu'elle en prend pour 25 ans. À l'atelier, Patrick Henry, c'est le cerveau de la bande. Il a fait des études en prison, un DUT d'informatique. C'est lui qui forme les autres. C'est lui qui leur apprend le métier. Il est très bon là-dedans, très patient, très pédagogue. Et assez vite, Martine s'aperçoit que Patrick aime bien les garçons. Des petits gestes comme ça, de tendresse, un bras sur l'épaule, vite retiré. Il a pris sous son aile un jeune Colombien de 30 ans, aux yeux très étranges. Violé par sa mère à l'âge de 9 ans, il est devenu violeur lui-même. Un gamin un peu débile, qui aurait plus sa place à l'hôpital psychiatrique qu'en prison. Eh bien Patrick s'en occupe. Il lui apprend à se laver, à se lever tôt, et même à écrire.
Mais avec Martine, il ne parle pas de tout ça. Hein. Il est très pudique, Patrick Henry. Parler de lui, non. Martine dira d'ailleurs qu'elle a toujours senti quelqu'un qui vivait avec le fait qu'il avait tué un gosse. Donc lui, il ne dit rien.
En revanche, elle a le voir toute la journée à l'atelier, dans le même bureau. Elle raconte les études de ses enfants, la naissance de son petit-fils. Elle lui montre la photo d'ailleurs.
Regarde Patrick, regarde comme il est mignon.
Et là, elle dit qu'elle le voit qui se crispe. Que sans doute à ce moment-là, il pense au petit Philippe Bertrand qu'il a étranglé. Alors elle range sa photo et ils n'en reparleront plus.
Le mari de Martine, Jean, le rencontre à son tour. Et le soir à table, « J'ai vu ton Patrick Henry, là. Il est sympa, hein? Très sympa. »
Martine lui présente aussi son fils aîné, Maxime.
Et puis le temps passe, les années. Et un jour, Martine apprend que Patrick Henry vient de déposer sa 6e demande de libération conditionnelle. Il en dépose une par an depuis qu'il est éligible.
Il présente toutes les garanties, il travaille en prison, il a fait des études, il a trouvé un logement dehors, mais il s'appelle Patrick Henry. Et en dernier ressort, le garde des Sceaux refuse toujours de le laisser sortir, parce qu'il est l'archétype du tueur d'enfants, parce qu'il est le monstre. Au passage, Martine pense qu'il devrait changer de nom.
Patrick, pourquoi est-ce que tu prendrais pas le nom de ta mère? Châtonnier. Patrick Châtonnier, tu serais plus tranquille, hein?
Non. Non, c'est hors de question. Je changerai pas de nom. Si je suis pas capable de vivre dehors sous le nom de Patrick Henry, eh ben, c'est que je suis pas capable de vivre dehors. Voilà.
Quoi qu'il en soit, sa 6e demande de libération est refusée par Jacques Toubon, le garde des Sceaux. Et à partir de là, Martine est totalement impliquée dans le projet de faire sortir Patrick Henry de prison. C'est elle qui trouve son nouvel avocat, Thierry Lévy. C'est elle qui va avec son mari Jean au ministère défendre sa cause. Mais un jour, elle déménage à Lille. Et c'est par la radio qu'en 2001, alors qu'elle est en voiture, elle apprend la nouvelle.
Patrick Henry est libre, une liberté conditionnelle. La décision a été prise par une juridiction.
Après 24 années de prison, Patrick Henry va sortir. Il a obtenu sa conditionnelle. Et quand il sort, Martine et Jean font les 400 kilomètres qui séparent Lille de Caen pour le voir libre. Il vit dans un petit de pièces, genre HLM. Mais en vérité, il vit surtout dans sa chambre.
Viens Patrick, on va dans le salon, enfin on sera mieux sur le canapé, qu'assis sur ton lit.
Non. Non, je préfère rester là, Martine.
Dans sa chambre, il a reconstitué sa cellule. Et c'est aussi dans cette chambre qu'il travaille pour son nouveau patron, l'imprimeur Charles Corlet. De chez lui, puisque les ouvriers de l'imprimerie ont menacé de se mettre en grève s'ils venaient à l'imprimerie. La plupart du temps, il vit d'ailleurs dans le noir, les volets fermés. Il ne peut pas vivre normalement.
En juin 2002, un peu plus d'un an après sa sortie, un jour, Patrick Henry va chez Leroy Merlin pour acheter des petits outils. Mais au moment de payer, il s'aperçoit qu'il a laissé son argent dans la voiture.
Et là, il prend la décision complètement folle de voler pour 15 euros de matériel. Trois fois rien, hein. Des poulies, des chaînes en acier, des mousquetons. Et il se fait pincer. Et le magasin, voyant son nom sur sa carte d'identité, porte plainte. Et Martine la prend par un journaliste. Elle est furieuse. Et en même temps, elle est très surprise. Alors elle l'appelle.
Enfin Patrick, tu dois être parfait. Tu dois être même plus que parfait. T'as droit à rien, hein? Ton nom est maudit. Tu dois traverser dans les clous quand il y a le petit bonhomme vert.
Mais, pour ce vol, Patrick Henry n'est condamné qu'à une amende. Sa conditionnelle n'est pas révoquée. En revanche, il se fait virer par son patron. L'imprimeur Corlet ne veut plus de lui. Et quand plus tard, il fait un excès de vitesse, il se retrouve encore à la une des journaux. Et quand il achète une voiture d'occasion, l'assureur ne veut pas de lui.
Dehors! Vous n'avez rien à faire ici. Mais comment avez-vous pu entrer dans mon bureau?
On ne veut pas non plus lui louer de garage. Et quand il va au restaurant avec Jean et Martine, il n'est jamais tranquille. Il regarde autour en permanence, il cherche les yeux hostiles, il sait que les gens le détestent. Et puis un jour, Patrick Henry fait une grosse bêtise. Dans la nuit du 5 au 6 octobre 2002, un an et demi après sa sortie, il se fait pincer à un péage en Espagne, près de Valencia, avec 10 kilos de cannabis planqués dans son coffre. Martine ne comprend pas. elle se pose une question très douloureuse. Est-ce qu'elle le connaît vraiment? Ils ont tant parlé tous les deux. Mais c'est vrai, assez peu de lui. Mais jamais de ses failles, de son côté sombre. L'avocat Thierry Lévy l'appelle.
Moi, Martine, je lâche pas, hein. Et vous?
Moi? Je crois pas, Non.
Et là, il se retrouve, non pas à Caen, mais à Val-de-Reuil, en Normandie. Martine a décidé de ne pas le lâcher. Elle va le voir au parloir toutes les 2-3 semaines. Et là, elle n'est plus la visiteuse de prison. Elle n'est plus responsable de l'atelier d'imprimerie. Elle est juste une amie. Une amie qui vient le voir au parloir. Elle le suit ensuite quand, au bout de 2 ans, il est transféré à la centrale de Saint-Maur, près de Châteauroux. Elle y va tous les dimanches après-midi, au moins 4 heures. Et là, ils deviennent vraiment intimes. Ils se livrent sur son enfance, et même du bout des lèvres sur son crime. Et quand elle lui caresse la main, il comprend pas qu'elle puisse toucher la main qui a étranglé un enfant. Et les années passent, et elle s'occupe toujours de ses demandes de libération conditionnelle. Et les gens sont prêts à l'accueillir chez eux à sa sortie. Mais toutes les demandes sont refusées. En 2012, il change encore de prison, Melun. En 2014, il espère que François Hollande va le laisser sortir. Rejeté. Jusqu'à ce qu'en 2017, on lui diagnostique un cancer du poumon. Stade 4, très évolué. Ça fait 40 ans qu'il est en prison. 40 ans. Et là, compte tenu de son état de santé, il est libéré. Patrick Henry quitte la prison de Melun le 15 septembre 2017. Et c'est Martine et Jean qui l'attendent à la sortie et qui l'emmènent directement à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris. Et ce sont eux qui louent, pour lui, un appartement près de Lille. Il va mourir, il le sait, ils le savent. Un jour, Patrick dit à Martine.
Je vais m'en aller, Martine. Et après, à ma droite, il y aura maman. Et à ma gauche, il y aura une place pour toi. Quand tu arriveras. Je vais te dire, Martine. Je t'aime parce que tu mérites d'être aimé.
Patrick Henry meurt le dimanche suivant à l'hôpital de Lille, où il était hospitalisé sous un faux nom, Anneau Peintre. Martine est prévenue tout de suite, la première. Elle arrive à l'hôpital vers 14h, soulagée que la presse ne soit pas encore au courant. Elle choisit de l'habiller d'une chemise et d'un pull bleu ciel qu'elle lui avait acheté et qu'il aimait bien. Ils sont 6 à la cérémonie d'obsèques au funérarium, juste avant l'incinération. Sa nièce, André, un théologien suisse avec lequel Patrick a correspondu toute sa vie, quelques amis tolards, et puis Jean et Martine. Elle lit un petit mot.
Patrick, mon ami, je suis profondément triste. Ça fait de nombreuses années que je te tiens la main, sans jamais la lâcher. Aujourd'hui, j'ai peur des jours à venir. Qui va tenir ma main, comme tu le savais le faire? Même si parfois j'ai entendu des imbéciles dire qu'être l'ami de Patrick Henry, c'est difficile. Je veux te dire que te connaître et partager notre tendre amitié a été une joie.
Les cendres de Patrick Henry reposent près de celles de sa mère, à Troyes, là où tout a commencé. J'ai tiré cette histoire du livre de la journaliste Plana Radenovic, Martine Weiss et Patrick Henry, L'amitié malgré tout, chez Michelon.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.